Radio Livre, une émission de Radio BLB.
À voix basse.
Le livre dont je vais vous lire des extraits aujourd'hui fait écho au thème du mois de notre Radio BLB, le Mars des femmes. Il s'agit d'un livre écrit par une femme qui évoque des hommes et des femmes issus du milieu littéraire et souvent célèbres à des époques différentes pour parler d'un sujet d'éternelle actualité, mais encore plus en exergue en cette époque et pas seulement à cause de la pandémie. Ce livre s'intitule « La voyageuse de nuit ». L'auteur en est Laure Adler. Voici un extrait de la quatrième de couverture qui présente ce livre. Il s'agit d'un carnet de voyage au pays que nous irons tous habiter un jour. C'est un récit composé de choses vues sur la place des villages, dans la rue ou dans les cafés. C'est une enquête tissée de rencontres avec des gens célèbres, mais aussi des inconnus. C'est surtout une drôle d'expérience vécue pendant 4 ans de recherche et d'écriture dans cette contrée qu'on ne sait comment nommer, la vieillesse. Les mots se dérobent. Aurait-on honte dans notre société de prendre de l'âge? Pour cette émission dédiée aux femmes, j'ai donc choisi des extraits de rencontres de Laure Adler avec d'autres femmes. Rencontres faites de souvenirs avec des femmes célèbres, décédées ou encore en vie, comme par exemple Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, ou encore en vie, comme Annie Ernaux. Le sujet abordé est donc celui de la vieillesse, sujet qui paraît souvent sensible chez les femmes. Je vous convie à lire les savoureuses pages 61 à 70 de ce livre pour vous faire une idée de ce que fait ressortir Laure Adler à ce sujet. Mais également sujet qui fait débat depuis quelques années, notamment par l'action des différents gouvernants, par exemple en ce qui concerne la réforme des retraites, mais également par certains problèmes rencontrés dans les EHPAD ou encore par les méfaits de cette maladie inquiétante Alzheimer, ou tout dernièrement pour la protection des anciens contre la Covid-19. Le premier extrait, souvenir de Marguerite Duras, que Laure Adler connaît bien puisque auteur de sa biographie. Marguerite Duras était hors âge à la fin de sa vie, comme elle a été hors catégorie dans la littérature. Elle disait qu'elle était vieille depuis l'âge de 20 ans, que son visage avait été détruit pour toujours à ce moment-là de son existence. Comme elle le savait, elle n'en souffrait pas. Elle en a même tiré avantage en choisissant des amants beaucoup plus jeunes qu'elle, attirés par des vieilles dames. Du coup, elle n'a pas eu la sensation de vieillir. Au début de l'amant, elle écrit « Un jour, j'étais âgée déjà. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venue pour vous dire que, pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. » Une amie hier au marché au bas de chez moi, voyant un très vieux monsieur passer devant elle, dont la queue, sans s'excuser, commence à pester à haute et intelligible voix. « Ah, ces vieux! Jamais je n'ai pu les supporter. Depuis que je suis petite, je les ai pris en grippe, et ça continue aujourd'hui. Je n'ose dire à mon ami de 68 ans, bon pied, bon œil, mais tout de même 68 ans, qu'elle fait partie depuis longtemps de cette catégorie. » Et Laure Adler de rajouter « On ne se sent pas vieillir. Est-ce un accroissement ou un amoindrissement de la vie? Est-ce une sédimentation d'expérience ou une série de coups portés à notre vitalité ?» Marguerite Duras ne s'est jamais préoccupée de son âge, a ressenti dans son corps jusque tard l'intensité du désir, désir sexuel, désir de vivre jusqu'à la dernière goutte le calice qu'est la vie. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne se souvient pas du temps d'avant, celui de la splendeur de la jeunesse, celui de la beauté. sans nostalgie. C'est son secret. Je pense à cette image que je suis seul à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là dans le même silence, émerveillante. C'est, entre toutes celles qui me plaisent de moi-même, celle où je me reconnais, où je m'enchante. Marguerite, par son don de sourcière, elle savait vraiment trouver dans la terre là où étaient les sources, a considéré le temps et non l'âge comme son adversaire. De la mort physique, elle se moque. De l'interruption de l'écriture, elle craint le pire. Quand on n'écrit pas, on doit avancer dans une forêt qui ne se ferme jamais parce que là, c'est la forêt qui se ferme, vous êtes pris. Elle écrira jusqu'à son dernier souffle, reviendra de la mort à plusieurs reprises, développant un savoir des confins, une lucidité vénéneuse, une jalousie féroce des vivants, elle qui ne l'était plus vraiment, avec une force d'un âge préhistorique. Allez-y, vous ne mourrez pas, je ne suis pas là pour personne, même pas pour moi. Un court extrait du journal de Virginia Woolf, le 29 décembre 1940. Elle a alors 58 ans. Elle note dans son journal « Je déteste la durée de la vieillesse. Je la sens venir, je suis aigri. » La suite avec une rencontre avec Nathalie Sarotte. Nathalie Sarotte n'en revenait pas de parvenir sans encombre à la grande vieillesse. Elle qui a su si bien en parler dans « Tropisme » alors qu'elle était une jeunette, c'était son premier livre, en évoquant ces mouvements indéfinissables aux limites de notre conscience, a su traverser toutes les phases de la vieillesse avec lucidité, introspection et humour. Elle a vécu le grand âge comme une bénédiction et attendu d'avoir 83 ans pour écrire « Enfance », une splendeur, où elle rend visible l'invisible, où elle désencombre par des mots ce palais mental qu'était pour elle, petite, l'apprentissage du monde. La vieillesse permet le retour nu à la presque naissance. Alors, tu vas vraiment faire ça? Évoquer tes souvenirs d'enfance? Comme ces mots te gênent. Tu ne les aimes pas, mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs? Il n'y a pas à tortiller. C'est bien ça. Je me souviens de la fois où, étant venue lui rendre visite dans son appartement, elle me proposa d'aller au café d'en face où elle avait l'habitude d'écrire. Nathalie marchait à pas mesurés. C'était toute une aventure de traverser au passage clouté. Elle s'avança prudemment. De l'autre côté, une dame l'observait, mi-admirative, mi-goguenarde. Quand elle parvint enfin de l'autre côté, la dame se mit à l'applaudir bruyamment. Nathalie grommela. « Mais de quoi je me mêle? Elle se prend pour qui, cette femme ?» Vieillir, c'est savoir continuer à faire ce qu'on faisait auparavant sans donner l'impression qu'on est diminué. Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans. Elle croit que j'ai quel âge? Savez-vous ce que répliqua la princesse Metternich à quelqu'un qui s'étonnait qu'elle ait encore des histoires d'amour à 80 ans? Je n'ai que 80 ans. Au nom de quoi voulez-vous me priver d'amour? Voyons maintenant ce que va nous livrer Annie Ernoux. Elle a 80 ans et ne les paraît pas. Elle vient ouvrir la porte de sa maison au fond d'un jardin qui domine la boucle de l'Oise. Habillée d'un jean, les cheveux longs lâchés, pas maquillés, elle ressemble à une adolescente. Tant la fougue, la sincérité, le désir d'être au plus juste de sa pensée l'anime quand on parle de ce sujet sur lequel elle a écrit des textes bouleversants. De manière pragmatique, tout en cueillant sa verveine sur le rebord en ciment de sa cuisine pour préparer la tisane, elle soupire. De toute façon, on ne peut pas y échapper. Puis elle se ravise. Enfin, si, en devenant vieille avant tout le monde. Moi, j'étais vieille à 21 ans. Même enfant, je me sentais toujours plus vieille que les autres. J'avais l'impression que les autres filles de l'établissement religieux où j'ai fait mes études étaient plus enfantines, plus légères. Moi, je n'avais pas de légèreté. À 15 ans, il me semblait avoir une expérience de vie beaucoup plus grande que les autres. J'ai mis du temps à comprendre qu'en raison du métier de mes parents, des personnes parmi lesquelles je vivais, je savais des choses sur le sexe, la misère, que je n'aurais pas dû connaître à mon âge. Ce décalage faisait que je me sentais vieille. Annie Ernoux a évoqué dans Les Armoires vides, puis dans La Honte, ses années d'enfance et d'adolescence dans l'épicerie d'Yvetot, l'autre monde auquel elle n'appartient pas, ce décalage permanent qu'elle ressent avec ce que ses autres camarades vivent, ce poids du vécu qui lui donne de l'âge, elle à qui l'innocence a été refusée. L'expérience qui, ensuite, m'a fait encore plus vieillir, fut mon avortement. L'avortement fait vieillir toutes les femmes. Moi, j'étais jeune et les filles de mon entourage n'avaient pas traversé cette épreuve. Moi, je savais. Ce savoir de la souffrance, Annie Ernaux l'a magistralement consigné dans L'Occupation. C'est tout son corps qui devient soudainement vieux. D'ailleurs, sans même m'en rendre compte, après, alors que j'étais très jeune, je me suis habillé comme une dame. Je me suis fait un chignon, j'avais l'air d'une personne respectable. Vieille, donc très jeune, à l'intérieur comme à l'extérieur. Toute concorde en apparence pour avancer en âge jusqu'au moment où elle retrouve, plus toute jeune, son corps, ses désirs, son pouvoir de séduction, sa gaieté de vivre. On peut se sentir très jeune tout d'un coup. Cela m'est arrivé plusieurs fois. La première, quand je me suis séparé de mon mari. La seconde, quand j'ai fait une lourde opération qui m'a permis de ne plus boiter et de pouvoir marcher sur mes deux jambes égales. La troisième, quand j'ai pris des amants plus jeunes que moi et que je comprenais que j'étais encore désirable. J'éloignais la vieillesse, mais sans y penser, consciemment. C'est lorsque j'ai appris que j'avais un cancer du sein à 62 ans que je me suis dit alors objectivement, je ne deviendrai donc jamais vieille. Avant, je ne l'espérais pas, puisque je n'y pensais pas. Mais, tout d'un coup, je me suis mise ardemment à désirer devenir vieille. Quand je rentrais de la chimio dans le RER, je regardais avec envie des femmes plus âgées que moi en me disant « Et moi, je n'aurais pas cette chance. » Mon fils attendait à l'époque son premier enfant et j'avais hâte d'être grand-mère. Et puis, bien soignée, contre toute attente, c'est reparti pour un tour. J'ai eu cette chance de devenir vieille. L'après-midi d'hiver tire à sa fin. Annie Ernaux, avant que la nuit noire ne tombe, me parle de sa tristesse devant sa chatte qu'elle a vue mourir de vieillesse. Elle me montre les grands sapins devant sa bibliothèque. Les très vieux, dit-elle, perdent au fil des années leurs plus basses branches. Nous, pareil, pas besoin de s'en attrister. Ma peau, mon corps tombent, mes seins descendent. C'est une sorte de chute. C'est une loi de la nature qui ne me dérange pas. Ce sentiment de la vieillesse s'est accompagné pour moi d'une perte de désir. Je n'avais plus envie de vivre des aventures avec des hommes, à dire vrai, le courage de souffrir. Bien sûr, on peut lutter. Le lifting, comme tout le monde, j'y ai pensé. Je l'ai décidé, et puis, comme par malice, un psoriasis géant m'en a empêché. Depuis, j'ai décidé de ne plus lutter. Je lui dis qu'elle ne fait pas son âge. Elle n'est pas d'accord. Elle juge qu'elle l'a, qu'elle le fait, qu'elle ne peut plus jardiner comme avant, marcher des journées entières, dormir sans se réveiller de nombreuses fois, donc se sentir embrumée le matin, avoir envie de faire une petite sieste après le déjeuner. Elle en rit et ne veut pas faire un catalogue des lamentations. Elle a fait ce qu'elle a pu de sa vie, n'éprouve pas de regrets. Sa vie peut s'arrêter, elle est bien remplie. L'important est le sentiment d'exister. J'ai une autre existence que mon existence. L'âge n'y change rien. Voyons ce qu'en dit Agnès Varda. Je me souviens de ce dimanche de janvier où Agnès Varda m'avait proposé de passer rue Daguerre prendre un café. Je suis arrivé avec un petit bouquet qu'elle a contemplé longtemps avant de disposer artistiquement les fleurs dans un vase. Pour elle, tout était émerveillement. La couleur, la forme des renoncules, puis l'arrivée du chat, puis l'odeur délicieuse du café, puis la salade de lentilles qu'elle avait préparée. Tu vas pas partir tout de suite. Je vais faire une petite sieste. Comme ça, tu peux voir mon dernier film sur le banc de montage. J'étais au fil de la journée devenue sa captive amoureuse. J'étais dans son univers, dans ses mots, dans ses images. Le soir, elle m'a entraîné à la cinémathèque où se terminait sa rétrospective. Elle parlait comme une adolescente de son film Jane B. Incandescence, doute, questionnement sur sa pratique artistique. Agnès, dans l'élan même de ce que veut dire créer. Devant l'esplanade de la Cinémathèque, le dimanche soir, tard, tout le monde était fatigué et avait envie de rentrer. Elle, au contraire, relançait les questions, coquette, avant qu'on se sépare, elle me lance. « Tu sais quel âge j'ai ? Tu te rends compte ? J'ai 90 ans. Tu crois que je l'ai fait ?» Deux semaines plus tard, sa dernière journée fut très occupée. Elle l'a commencé très tôt et voulait terminer son œuvre. Jusqu'aux derniers instants, elle a cherché, elle a créé. Voici un extrait qui rassemble plusieurs personnalités. Simone de Beauvoir, la marquise de Rambouillet, Madame de Montespan, Madame de Sévigné, Georges Sand. Du savoir de posséder un certain âge, on peut faire aussi un viatique, voire une morale de vie. La vieillesse peut devenir alors pour certains l'expérience de la résignation, le décompte obsessionnel des amoindrissements, l'âge du jamais plus. Simone de Beauvoir, dans La force de l'âge, dit « Oui, le moment est arrivé de dire jamais plus. Ce n'est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais je ne m'écroulerai, grisé de fatigue, dans l'odeur du foin. Jamais plus un homme. » Préférant la lucidité clinique et ravageuse de l'avancée de l'âge, Simone de Beauvoir refuse toute déploration et la traite en guerrière comme une ennemie qu'il faut combattre sans relâche. Les femmes se montreraient-elles plus courageuses que les hommes face à ce qu'on nomme le fléau de l'âge ? En tout cas, elles n'aiment pas les faux-semblants et ne se réfugient pas dans l'illusion qu'elles sauraient en réchapper. De nombreux témoignages évoquent leur tranquille détermination à aborder la Camarde. La marquise de Rambouillet mourut à l'âge de 77 ans en 1665. Cela faisait longtemps qu'elle s'était effacée en ayant décidé qu'elle n'existait plus. Pas besoin de faire endosser aux autres les jours que vous n'auriez pas dû vivre. Madame de Montespan savait qu'elle allait bientôt mourir et sa seule crainte était de mourir seule dans son lit. La nuit tombée, elle demandait à ses domestiques de la veiller et d'allumer toutes les bougies. Le 27 mai 1707, sachant qu'elle allait vivre ses derniers instants, elle fit ce qu'elle avait à faire, note le duc de Saint-Simon dans ses mémoires, et, en expirant, elle demanda qu'on ferme ses rideaux après sa mort. Peut-on se connaître si bien qu'on devance soi-même ses derniers instants ? Madame de Staël a eu tout au long de son existence refusé de s'abîmer dans la nostalgie du passé. Elle croyait aux éternels recommencements et était toujours sur le qui-vive, à l'affût de nouvelles aventures. Sa méthode, devancer l'âge, d'abord en prenant de nouveaux amants et en étant capable de disparaître pour qu'on la recherche, ne pas écouter celles et ceux qui vous parlent des conséquences néfastes de la prise d'âge, ne fréquenter que des plus jeunes que soi et se marier avec un homme de 22 ans de plus jeune qu'elle. Elle mourra à 51 ans brutalement. 50 ans, c'est l'âge auquel Madame de Sévigné s'est déclarée elle-même vieille. Elle dit à sa fille que ça lui tombe dessus brutalement avec la perte de la croyance en son immortalité. Auparavant, elle le croyait. Elle vivait dans la vie comme un poisson dans l'eau. Et puis patatras, la vieillesse déboule. Comme elle dit, m'y voilà. Impossible de s'y soustraire et encore moins d'en regriller l'échéance. Alors, elle se terre et prie le ciel que le sort ne l'amène pas trop loin. George Sand, elle, aura le loisir et le plaisir de se voir vieillir et de ne jamais se plaindre. Dans sa correspondance, elle décrit minutieusement les conséquences de cette évolution. On ne revient pas, on passe aussi, on est l'eau qui jase et qui coule. N'est-ce pas couler, assez jaser, quand on a reflété de belles choses et que l'on les a aimés et chantés. On s'ennuierait à continuer, on s'effraierait de recommencer. On vieillit seul et triste, recueilli mais tranquille, toujours tranquille. Elle ne put guère marcher, alors elle peint de l'aquarelle, mais découvre aussi le tachisme, s'achète un appareil photo, profite de sa petite fille, sent le bonheur de l'accomplissement de la vie couler dans ses veines. Puis elle se rend compte qu'elle s'est affaiblie. Elle constate, sans en faire une affaire, en accord avec elle-même et avec la nature qui l'environne, elle se met en paix. À son cousin Oscar, elle écrit le 29 mai 1876 ce qui s'avéra sa dernière lettre, nouant et calme et gai. J'en ai vu d'autres, et puis j'en fais mon temps et ne m'attriste d'aucune éventualité. Je crois que tout est bien. Vivre et mourir, c'est mourir et vivre de mieux en mieux. Colette, elle, célébrera à sa manière l'automne de sa vie. Elle, que l'arthrite empêchait de bouger, au lieu de se plaindre, fera l'éloge du toit proche. Pas la peine de regretter l'inatteignable lointain. Apprenons à regarder le chardon azuré, la lézarde verte, mais aussi l'herbe courte d'où s'élèvent lestées de leurs minuscules fruits oblongs, aigrettes d'argent filé, les derniers pissenlits. Le toucher et l'odorat acquièrent alors une importance particulière et se révèlent pleins de promesses de bonheur. L'art de vieillir devient une seconde nature avec, en prime, les retrouvailles avec les années d'enfance. Terminons avec des personnes qui ne sont pas célèbres et qui sont de la famille de Laure Adler, sa fille, sa mère, sa grand-mère, et celui d'une personne ordinaire. Ma fille cadette, Paloma, a décidé un jour que je ne devais plus l'accompagner jusqu'à la porte de l'école. Elle avait 8 ans. Elle a eu du mal à m'en avouer les raisons. « Tu es trop vieille, tu ne ressembles pas aux mères de mes copines. » Paloma est née l'année de mes 40 ans et donc, oui, j'étais une mère de 48 ans, la seule de son espèce, une vieillarde au milieu des mères trentenaires. J'étais blessée, mais j'ai compris. Je n'ai rien dit. J'ai accepté la mort dans l'âme de confier ma fille à des mères qui, elles, avaient le droit de voir leur enfant franchir la grille. Quelques semaines plus tard, un beau matin, Paloma me tire sans explication par la main au-delà de la frontière fatale et m'entraîne devant l'école où elle se fait voir et de ses copines et de leur mère en me faisant des câlins. Tu comprends, maman, même si tu parais plus vieille, les mères de certaines de mes copines le sont beaucoup plus que toi dans leur tête, me confiera-t-elle le lendemain. C'était mon jour de gloire. Ma grand-mère, les jours de marché, quand on rentrait à l'appartement, s'asseyait toujours sur le même banc pour reprendre son souffle. Courbée sur elle-même, la tête baissée et les mains sur les oreilles, elle me disait comme pour s'excuser « Tu verras quand tu auras mon âge. » L'âge était une fatalité que je comprenais comme une menace. Les vieux faisaient vieux. Elle s'appelle Mishka. Un beau jour, elle comprend qu'elle ne peut plus rester toute seule dans son appartement. Alors, elle fait une demande pour entrer dans un établissement où on met les gens comme elle. Elle va devoir perdre son rythme de vie, son cadre de vie, ses habitudes. Elle a tout vendu pour payer cette folle vie. Déjeuner à midi, goûter à 16h, dîner à 18h30. Heureusement, son amie Marie vient lui rendre visite et elle s'est liée d'amitié avec l'orthophoniste qui tente de faire barrage à la perte du langage. Mais tout s'en va en Mishka. Ça fuit de partout, surtout depuis qu'elle est à l'EHPAD. Des petits pas, des petits sommes, des petits goûters, des petites sorties, des petites visites, une vie amoindrie, rétrécie, mais parfaitement réglée, écrit Delphine de Vigan, qui restitue la lente descente de cette dame qui, à partir du moment où elle entre dans ce territoire où personne n'attend rien d'elle, si ce n'est sa mort, va se laisser consumer à petit feu et perdre sa joie de vivre, puis son énergie. Elle, qui a tout vendu pour payer les mensualités de l'EHPAD, va progressivement passer son temps à attendre, et même attendre quoi ? La mort, bien sûr. Et le mieux, pour elle, serait de mourir dans son sommeil. Dans les gratitudes, l'auteur décrit admirablement ce qu'elle nomme le point de bascule, ce moment où l'être lâche et abandonne la partie. Ne subsiste que le simple automatisme de durer, de continuer à vivre, au ralenti progressivement, jusqu'à disparaître du monde. Ma mère, un dimanche après-midi à l'EHPAD, assise sur le canapé orangé de l'entrée, Voyant passer trois résidentes se rendant dans la salle d'animation où est annoncée la diffusion d'un documentaire animalier, pourquoi ils sont si vieux dans cet endroit ? Ce n'est pas drôle de vieillir, mais quand même, on n'a pas mérité ça. Une semaine plus tard, quand je reviens la voir et que nous prenons le café à la même heure sur le même canapé, voyant passer devant elle les mêmes résidentes, elle me dit soucieuse : Tu vois, je ne comprends pas. Je ne les ai pas invitées. Que font-elles ici ? Je lui propose d'aller dans sa chambre en ajoutant maladroitement que là-bas, c'est vraiment chez elle. Elle me répond en souriant : Ici, c'est partout chez moi. De quelle rive me regarde-t-elle ? Moi, sa plus vieille fille, moi qui continue à faire des projets d'avenir, elle qui me dit ne plus vivre totalement dans le présent. La vieillesse, ça fait plein de nœuds dans la tête. Tu verras quand ça t'arrivera. Ma mère vit dans sa tête. Il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Le seul extérieur qu'elle tolère, voire qu'elle recherche, c'est la musique à la radio. La lumière est trop forte, la chaleur trop lourde, le ciel trop bleu tard dans la soirée. Elle attend le moment où le contour des choses s'estompe et où le flou de l'extérieur du monde correspond au sien. L'été surtout, aux heures les plus chaudes, assise sur son fauteuil, elle ferme les yeux tout en ne dormant pas. Du plus loin que je me souvienne, elle a toujours recherché l'ombre, même sur les plages d'Afrique déserte. Aujourd'hui, dans quelle obscurité cherche-t-elle à s'abriter ? Où est-elle ? Que pense-t-elle ? Je n'ose lui demander. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un extrait de la chanson interprétée par Nicole Croisil, Une femme avec toi.
Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontrée. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gaie comme un Italien quand il sait qu'il aura. Première fois, je me suis enfin sentie femme.
J'espère que la lecture de ces extraits vous aura incité à lire ce livre, que vous soyez très âgé, âgé, jeune, très jeune, car c'est un livre qui permet de comprendre des choses souvent peu évidentes. Je vous donne rendez-vous au mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Radio Livre, une émission de Radio BLB.